La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Aujourd'hui, nous allons partir dans les étoiles. C'est un très long voyage car il s'agit de les rencontrer, ces étoiles. En pensée, bien sûr, mais quand même. Nous allons faire connaissance avec elles, savoir ce qu'elles sont réellement, comment elles se sont formées, quel est leur destin, si les étoiles du ciel se ressemblent ou sont toutes différentes, et où elles se situent en réalité dans l'espace. Il est loin le temps où les êtres humains pensaient que les étoiles étaient fixes, dessinées sur une sphère qui tournait autour de la Terre. Nous savons maintenant qu'une étoile est une grosse boule de gaz chaud qui tient toute seule dans l'espace, comme une sphère brillante, une sphère gigantesque, qui peut avoir un rayon d'1 million de kilomètres et même beaucoup plus. La célèbre étoile Bételgeuse, par exemple, une supergéante, a un rayon de plus de 600 millions de kilomètres. Une étoile est une structure en équilibre dans l'espace. La matière qui la constitue est attirée vers le centre de la sphère, mais en même temps, elle est soutenue par la pression interne qui la pousse vers l'extérieur. C'est donc un équilibre à très long terme. Heureusement pour nous, car le Soleil lui-même est une étoile et nous pouvons être tranquilles de ce côté-là. L'énergie qu'il nous envoie n'est pas près de diminuer ou d'augmenter brutalement. En revanche, même si ce n'est pas le sujet de cette émission, il faut rappeler que la manière dont cette énergie atteint le sol terrestre dépend de notre atmosphère et que ce sont donc les modifications de cette atmosphère qui conduisent actuellement au réchauffement climatique. Mais revenons aux étoiles. Elles sont en équilibre à long terme, mais elles évoluent quand même très, très lentement. La raison de cette lente évolution, c'est que l'énergie qu'elles rayonnent provient de réactions nucléaires dans leur cœur interne et que ces réactions nucléaires transforment la matière. Notre Soleil transforme l'hydrogène en hélium dans ses régions centrales et bien sûr, tout va changer quand il n'y aura plus d'hydrogène. Alors le Soleil va grossir, devenir une étoile géante pendant que son cœur interne va se contracter. J'ai invité aujourd'hui pour parler de tout cela Sébastien de Heuvels, qui est justement un spécialiste des étoiles géantes rouges, entre autres sujets de recherche. Bonjour Sébastien.
Bonjour Sylvie.
Sébastien de Heuvels est astrophysicien à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et il est maître de conférences à l'Université de Toulouse. Il va nous parler de la durée de vie des étoiles, ce qui se passe quand elles deviennent géantes, les réactions nucléaires et aussi, dans une prochaine émission, les vibrations des étoiles, leur champ magnétique, les systèmes planétaires qui tournent autour d'elles, etc. C'est tout un programme. Mais pour l'instant, Sébastien, nous allons rester près de chez nous. Peux-tu nous dire depuis combien de temps notre Soleil existe et combien de temps il lui reste à vivre ?
Oui, c'est une bonne chose de commencer par le Soleil, parce qu'effectivement, c'est lui qu'on connaît le mieux. Alors, notre Soleil, maintenant, on le sait, il a à peu près 4,5 milliards d'années, et il lui reste un bon paquet de temps à vivre. Alors, la question un petit peu, c'est de savoir qu'est-ce que ça veut dire vivre pour une étoile. Sylvie, tu as bien mentionné que le Soleil transforme de l'hydrogène en hélium au cœur et que c'est ça qui lui donne son énergie. Donc ça, le Soleil va passer encore un peu plus de 5 milliards d'années à faire ça, donc 10 milliards d'années en tout à convertir de l'hydrogène en hélium. Et pour autant, quand ce sera terminé, ce ne sera pas la fin de sa vie. Tu as parlé aussi de la géante rouge. Donc le Soleil, à ce moment-là, son cœur va se contracter et va se mettre à brûler toujours de l'hydrogène, mais dans une couche autour d'un cœur d'hélium. Il va devenir une géante, son enveloppe va s'étendre.
Ça va aller plus loin que les orbites des planètes actuelles ?
Oui, effectivement, ça va aller plus loin que l'orbite actuelle de Mercure, de Vénus. Ça va s'approcher de l'orbite de la Terre. Donc à ce moment-là, Mercure et Vénus vont être engouffrés dans le Soleil. La Terre, les conditions vont changer pas mal sur Terre à ce moment-là.
Il va faire chaud.
Il va faire très chaud et en espérant que la Terre ne tombera pas dedans. Mais c'est dans très longtemps. Donc ça, ce sera encore quelques milliards d'années pendant lesquelles l'étoile va être le Soleil va être une sous-géante et puis une géante. Et ensuite, elle va démarrer la combustion de l'hélium au cœur. Elle va redevenir une géante et à ce moment-là, elle va s'arrêter là. Le Soleil ne brûlera pas plus loin que l'hélium. L'hélium est transformé en carbone et en oxygène. Donc, il restera du Soleil un cœur très dense de carbone et d'oxygène qui deviendra ce qu'on appelle une naine blanche. Et puis l'enveloppe, elle, qui est devenue très très grande quand l'étoile redevient une géante, va finir par être expulsée. Ça donne ce qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Voilà.
Des nébuleuses planétaires, ça c'est un nom qui existe depuis longtemps, mais ça ne veut pas dire que forcément il y a les planètes dedans, c'est le nom de la nébuleuse simplement.
Exactement, c'est des noms qui sont hérités d'avant où les anciens ne savaient pas exactement à quoi correspondaient les taches un peu floues qu'ils voyaient dans le ciel. Ils appelaient tout un peu nébuleuse. Ça, c'est une nébuleuse planétaire parce que ça ressemble vaguement à un objet sphérique, mais c'est pas du tout une planète. On sait maintenant que ce sont les restes d'une étoile peu massive qui est en fin de vie.
Donc ça, c'est le Soleil. Alors le Soleil, c'est une étoile relativement petite, relativement moyenne. Et donc les autres étoiles, qu'est-ce qui leur arrive? Les plus grosses.
Voilà, alors effectivement, le Soleil, c'est celle qui nous paraît la plus grosse parce qu'elle est de très très loin la plus proche, mais en fait, c'est plutôt une toile relativement peu massive. La gamme de masse des étoiles, elle va de à peu près 8% de la masse du Soleil jusqu'à quelques centaines de masses solaires. Donc, il y a des étoiles beaucoup plus massives que le Soleil. Alors, une des principales choses qui changent quand on va vers des étoiles plus massives, c'est que les étoiles évoluent beaucoup plus vite. Une étoile massive, elle va évoluer en quelques millions d'années, c'est terminé. Et surtout, ce qui change beaucoup aussi, c'est les stades finaux. Les étoiles les plus massives. Alors, jusqu'à une vingtaine de masses solaires, les étoiles, elles vont exploser en supernova et donner une étoile à neutrons. Et au-delà d'une vingtaine de masses solaires, on pense qu'elles vont donner des trous noirs.
Alors, une étoile à neutrons, dis-nous un petit peu. Donc, une supernova, c'est une étoile qui explose. Il y a des questions d'échelle de temps, hein, parce que comment dire, la fin de la vie du Soleil, c'est de l'ordre de plusieurs millions d'années, tandis qu'une supernova, ça explose en quelques heures.
Exactement, tout s'accélère beaucoup. Donc déjà, une étoile massive, elle évolue en peu de temps. Hein. Donc j'ai dit quelques millions d'années, c'est rien du tout par rapport à l'échelle de l'univers. Hein. Donc les étoiles les plus massives qu'on voit maintenant, on sait qu'elles sont toutes jeunes par rapport à l'échelle de l'univers. Et après, dans la toute fin de l'évolution, la combustion. Alors ces étoiles-là qui explosent en supernova et qui donnent des étoiles à neutrons, elles vont brûler de l'hydrogène, puis de l'hélium, puis du carbone, de l'oxygène, du silicium, du fer. Et après, donc quand on en est à la combustion de ces éléments les plus lourds, ça se passe en quelques jours, c'est fini. Et puis une explosion de supernova, c'est effectivement quelque chose qui est sur un temps très court, très très court par rapport à l'échelle de vie de l'étoile.
Alors, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. D'abord, une étoile à neutrons, il faut peut-être expliquer ce que c'est qu'une étoile à neutrons et puis par rapport à la naine blanche. Moi, je sais qu'une naine blanche, c'est une étoile qui a à peu près la masse du Soleil et à peu près le volume de la Terre. Une étoile à neutrons a, pour une masse solaire, un volume, enfin un rayon de quelques kilomètres, non? C'est ça?
Oui, c'est ça. C'est les étoiles à neutrons, c'est les objets les plus denses qu'on puisse voir, en fait. Après, plus denses, c'est des trous noirs, on ne les voit pas. Une étoile à neutrons, donc c'est ce qui reste du cœur de l'étoile quand il s'est contracté. En fait, ce qui se passe, c'est que quand l'étoile la plus massive, quand elle arrive à la combustion du fer, le fer, c'est un peu un élément charnière parce que au-delà du fer, de la fusion du fer, fusionner des éléments plus lourds que le fer, c'est quelque chose qui ne donne plus d'énergie à l'étoile, ça lui en prend. Donc en fait, quand elle arrive au fer, c'est terminé, les réactions nucléaires ne lui procurent plus d'énergie. Et donc l'étoile va s'effondrer. Tu as bien dit que l'étoile, c'est un équilibre entre la gravité et les forces de pression. Et bien là, c'est la gravité qui l'emporte et l'étoile s'effondre. La seule chose qui peut s'opposer à cet effondrement, c'est ce qu'on appelle la pression de dégénérescence des neutrons. Donc les neutrons, quand ils sont quasiment en contact, ils donnent une source de pression, une pression supplémentaire qui s'oppose à cet effondrement. Et c'est le rebond sur cette étoile à neutrons qui crée l'explosion qu'on appelle
C'est
supernova.
ça, c'est-à-dire qu'il y a effondrement et rebond. Ça, c'est important parce que sinon les gens ont du mal à comprendre qu'il y a à la fois contraction
Oui.
et explosion. Et ces neutrons, donc ça fait partie du noyau atomique. Donc c'est une partie du noyau. Ça se condense tellement qu'en fait, cette étoile à neutrons, c'est comme un énorme noyau atomique.
Exactement, les neutrons sont quasiment en contact. Donc, une étoile à neutrons, en fait, elle a une masse qui est de l'ordre de grandeur de la masse de l'étoile initiale, même si elle a perdu un peu de masse quand même au passage. Mais par contre, les neutrons sont quasiment en contact. Donc, c'est comme un gros noyau d'atomes, mais à l'échelle d'une étoile, quoi.
Et alors, on va parler de champ magnétique un peu plus tard dans une autre émission, mais on peut quand même dire que ces étoiles à neutrons, il y en a qui sont très magnétiques et ça canalise le rayonnement et c'est ce qu'on appelle les pulsars.
Exactement, oui, ces étoiles, en fait, on parlera effectivement de champ magnétique un peu plus tard, mais en fait, quand on contracte une étoile, on va amplifier beaucoup de choses, et en particulier, on va amplifier le champ magnétique. Donc, s'il existe un petit champ magnétique initial dans le cœur de l'étoile, en se contractant très fortement quand elle devient une étoile à neutrons, on va créer des champs magnétiques qui sont très très intenses. Et c'est ce qu'on appelle les pulsars, effectivement.
Eh bien, c'est passionnant tout ça. Et avant d'aller de finir cette émission, on peut quand même dire, tu as parlé de transformation des éléments dans les étoiles massives jusqu'au fer. Il faut dire que ces éléments-là, ben, c'est ceux dont nous sommes constitués. Enfin, c'est de cette manière-là, c'est grâce à ces étoiles en partie que les éléments chimiques, enfin les éléments dont nous sommes faits, ont été formés dans l'univers.
Exactement, ça c'est vrai que c'est quelque chose qui donne un peu le vertige d'imaginer ça. C'est que quand l'univers se forme, il est formé des éléments les plus légers qu'on puisse imaginer, l'hydrogène et l'hélium. Et ensuite, eh ben, ce sont les étoiles les plus massives qui, en convertissant ces éléments plus légers, en les faisant fusionner en des éléments plus lourds, créent ces éléments lourds. Et ensuite, c'est les explosions en supernova vont disséminer ces éléments plus lourds dans le milieu interstellaire, dans la galaxie, et donc enrichir le gaz en éléments plus lourds. Et en fin de compte, quand le Soleil se forme, il se forme avec une petite partie d'éléments plus lourds et dont nous sommes constitués. C'est le carbone, l'azote, le phosphore, le soufre, ces éléments dont qui font la matière organique, initialement, ils ont été créés dans des étoiles massives.
Et ça, c'est concret. C'est-à-dire que le carbone qu'on a en nous, les noyaux de carbone qu'on a en nous, étaient dans une étoile dans le passé. C'est quand même... Et ces étoiles dont on a parlé, d'étoiles comme le Soleil, on n'a pas parlé d'étoiles plus petites que le Soleil. Elles vivent très, 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 très longtemps. Plus que l'âge de l'univers actuel.
Voilà, exactement. Les étoiles, quand on va vers les gammes plus d'étoiles moins massives, c'est le contraire. Ces étoiles-là, elles vivent très très longtemps. Elles ont un âge qui est plus long que l'âge de l'univers. Ce qui fait que les étoiles qu'on voit de moins massives, en fait, il y en a certaines qui témoignent quasiment des premiers moments de l'univers. En fait, les premières étoiles, elles ont un âge qui est comparable à celui de l'âge de l'univers. À part s'il leur est arrivé des mésaventures avec du transfert de masse, c'est des étoiles qui continueront leur vie pendant très très longtemps après ce moment-là.
Eh ben, ça fait un zoom. Moi, j'ai l'impression que les gens doivent être un petit peu avoir la tête pleine là, avec ce qu'on leur explique du zoo des étoiles. Donc, on va s'arrêter pour cette émission. On va se retrouver la semaine prochaine pour entrer un petit peu plus en détail dans, par exemple, comment nous savons tout ça. Parce que c'est bien aussi d'expliquer aux gens comment on le sait. Ce n'est pas juste une belle histoire comme on raconterait de la science-fiction. Il y a vraiment des recherches derrière, c'est important. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir, Sébastien.
Au revoir, merci.